Le garde de mes propriétés, demi-paysan, me rendant compte de ce qui se passait dans le pays, aussitôt après le 24 février, m'écrivait. Les gens disent que si Louis-Philippe a été renvoyé, c'est bien fait et qu'il l'avait bien mérité. C'était là pour eux toute la morale de la pièce. Mais quand ils entendirent parler du désordre qui régnait dans Paris, des impôts nouveaux qu'on allait établir, de la guerre générale qui était à craindre, lorsqu'ils virent le commerce qui s'arrêtait et l'argent qui semblait s'enfoncer sous terre, et que surtout ils apprirent qu'on attaquait le principe de la propriété, ils s'aperçurent bien qu'il s'agissait d'autre chose que de Louis-Philippe. Extrait des souvenirs d'Alexis de Tocqueville.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le XIXe siècle a été un véritable laboratoire politique pour la France. Divers régimes se sont succédés entre le Premier Empire et la Troisième République. Or, le propos d'aujourd'hui est de réfléchir sur la politisation progressive du monde paysan au XIXe siècle. Je ne veux pas dire par là qu'il n'y avait pas de politisation sous l'Ancien Régime, parce qu'il y avait des consciences, par exemple, vis-à-vis du fisc qui traversait le monde paysan, et il y avait des révoltes au XVIIe siècle qui se faisaient contre la fiscalité, où l'on criait souvent pendant les révoltes « Abat la gabelle, vive le roi !» Donc il y a effectivement une politisation de ce point de vue-là. Mais au XIXe siècle, ce qui est le plus marquant, c'est que le monde paysan va véritablement entrer dans le cadre du vote, ce qui est évidemment déterminant dans l'évolution politique du pays. Faisons le point sur les questions de loi électorale. Sous la Restauration, la loi du 5 février 1817 sur les élections à la Chambre des députés prévoit que pour être électeur, il faut avoir 30 ans et payer 300 francs d'impôts. Et il faut payer 1000 francs pour être éligible. Le monde paysan est exclu de cette situation. Sous la monarchie de Juillet, la loi du 15 avril 1831 sur les élections législatives abaisse le niveau des impôts à 200 francs, l'âge passe à 25 ans, et pour être éligible, il ne faut plus payer que 500 francs d'impôts, ce qui reste extrêmement important, mais qui peut permettre effectivement à certains grands propriétaires paysans de participer au vote. Mais c'est surtout la loi du 24 mars 1831 sur les élections municipales qui permet à des riches paysans de participer à cette élection, puisque la loi prévoit que 10 à 14% des personnes les plus imposées par commune pourront voter pour le conseil municipal. Donc il y a là, effectivement, un début d'entrée par le vote, mais avouons-le tout de suite, ça reste extrêmement minime. Est-ce à dire qu'au XIXe siècle, il n'y a pas encore des manifestations politiques du monde paysan, avant même d'avoir le droit de vote? On peut estimer que la guerre des demoiselles, en Ariège et dans les Pyrénées, qui protestaient à la fin de la Restauration contre le droit des forêts, qui faisait que les forêts domaniales, supprimaient toute habitude qu'avait le monde paysan de venir prendre du bois, glaner dans ces forêts, cette révolte est finalement une réaction politique de type Ancien Régime, où à partir de 1829 et jusque vers 1832, des paysans des Pyrénées se révoltaient et manifestaient contre l'État, menant même une véritable guérilla contre les agents de l'État dans les forêts domaniales. De même, à la fin de la monarchie de Juillet, à Buzancé, dans le Berry, en 1847, il y a eu véritablement une révolte à la fois contre la disette et également contre le fisc, qui rappelle de manière très claire une tradition qui remonte indéniablement à l'Ancien Régime. On peut même estimer qu'au début du XXe siècle, La révolte, la grande révolte des vignerons du Languedoc en 1907, est marquée justement par ces colères paysannes, en l'occurrence là, à cause d'une surproduction, d'une concurrence et d'une baisse des revenus et une hausse des impôts qui frappaient le monde des vignerons languedociens. Mais évidemment, la grande date pour le monde paysan, c'est à partir du moment où il va pouvoir voter. Et de ce point de vue-là, le décret de la Seconde République qui prévoit le vote universel des hommes, en date du 5 mars 1848, est extrêmement important. Parce que avec ce système, vous avez véritablement l'entrée en masse des paysans dans le corps électoral, et désormais, les affaires parlementaires, les affaires politiques ne seront pas seulement le fruit et le résultat de débats entre des élites, mais bien le résultat de votes issus du suffrage universel. Pour témoigner de ce premier vote au suffrage universel, je reviens à Alexis de Tocqueville, dont j'ai cité un extrait des souvenirs. Il a laissé un témoignage que je voudrais vous lire. Il est un peu long, mais il vous met dans l'ambiance de ce que pouvait être le vote en 1848, au moment de l'élection de l'Assemblée qui allait déterminer la constitution de la Deuxième République. Je cite donc Tocqueville. La population m'avait toujours été bienveillante, mais je la retrouvais cette fois affectueuse, et jamais je ne fus entouré de plus de respect que depuis que l'égalité brutale était affichée sur tous les murs. Nous devions aller voter ensemble au bourg de Saint-Pierre, éloigné d'une lieue de notre village. Le matin de l'élection, tous les électeurs, c'est-à-dire toute la population mâle au-dessus de 20 ans, se réunirent devant l'église. Tous ces hommes se mirent en la file deux par deux, suivant l'ordre alphabétique. Je voulus marcher au rang que m'assignait mon nom, car je savais que dans les pays et dans les temps démocratiques, il faut se faire mettre à la tête du peuple et ne pas s'y mettre soi-même. Au bout de la longue file venaient, sur des chevaux de bât ou des charrettes, des infirmes, des malades, qui avaient voulu nous suivre. Nous ne laissions derrière nous que les enfants et les femmes. Nous étions en tout 170. Arrivés en haut de la colline qui domine Tocqueville, on s'arrêta un moment. Je sus qu'on désirait que je parlasse. Je grimpai donc sur le revers d'un fossé. On fit cercle autour de moi et je dis quelques mots que la circonstance m'inspira. Je rappelai à ces braves gens la gravité et l'importance de l'acte qu'ils allaient faire. Je leur recommandai de ne point se laisser accoster ni détourner par ceux qui, à notre arrivée au bourg, pourraient chercher à les tromper. Mais de marcher sans se désunir et de rester ensemble, chacun à son rang, jusqu'à ce qu'on eût voté. Que personne, dis-je, n'entre dans une maison pour prendre la nourriture ou pour se sécher, avant d'avoir accompli son devoir. Ils crièrent ainsi qu'ils le feraient, et ainsi ils le firent. Tous les votes furent donnés en même temps, et j'ai lieu de penser qu'ils le furent presque tous au même candidat. Ainsi, après avoir voté moi-même, je leur dis adieu, et montant en voiture, je partis pour Paris. Cet extrait est intéressant parce qu'on voit effectivement le grand notable. Tocqueville fait partie d'une vieille famille de la noblesse normande. Il est de tradition libérale. Il appartenait d'ailleurs, sous la monarchie de Juillet, à l'opposition de la gauche dynastique. Et il montre le rôle du notable face à ces paysans qui vont voter pour la première fois et qui voient dans le notable d'ailleurs un guide, quelqu'un qui peut les mener dans la dignité jusqu'au bureau de vote. Et il est évident que, à partir de ce moment-là, le vote paysan, dans une France dominée par les campagnes, va devenir extrêmement important. Ce vote va être un enjeu véritable sur le plan politique. Alors, si l'on regarde les résultats des votes de la Seconde République et sous le Second Empire, il est indéniable qu'il y a une majorité assez nette de ruraux qui votent pour l'ordre. Ils redoutent à la fois le retour du château, c'est-à-dire cette crainte quelque peu fantasmée, mais après tout les craintes peuvent l'être, d'un retour des droits féodaux, même si le risque au milieu du XIXe siècle était nul. Et puis d'autre part, beaucoup de ces paysans redoutent les rouges, les partageux, ceux qui voudraient mettre en cause la propriété. Et donc, ils vont voir dans le bonapartisme un élément de sécurité. Il y a bien eu un véritable attachement d'une très grande partie du monde rural au bonapartisme jusqu'à la fin du Second Empire. Alors, quand est-ce que se rallie progressivement le monde paysan au concept de la République? Eh bien, sous la Troisième République, le monde paysan va progressivement, effectivement, adopter le régime républicain parce que celui-ci a fait preuve de fermeté, était une garantie d'ordre et de respect de la propriété. En écrasant la commune, Thiers, si j'ose dire, a rendu un service à la République en montrant qu'elle pouvait être un élément de défense de cette propriété auquel étaient attachés les paysans. Et comme les monarchistes étaient divisés, eh bien ils perdirent la dernière occasion sans doute de voir une restauration en France. Désormais, vous l'avez compris, le vote paysan était devenu un enjeu majeur.